Eh bien, Bokertov, Lekoulam, Bokertov, Shavuatov. Et on est parti pour notre deuxième étude sur, pour l'instant, on en est dans le Mavo, dans l'introduction à l'histoire de la Kabbalah. La semaine dernière, on a parlé de la Kabbalah comme étant le vestige de la prophétie. OK, ça a été le grand thème qu'on a abordé la semaine dernière. Et aujourd'hui, c'est notre deuxième et je pense dernier cours d'introduction sur l'historique de la Kabbalah. On va justement poser la question, à partir du moment où on est à la fin de l'époque prophétique, comment peut-on appréhender le message divin? Puisqu'en fait, c'est de ça qu'on parle. Comprenez-moi bien. Et nous allons commencer directement dans le vif du sujet. Lorsque nous parlons de Sof Idan Hanevoa, de la fin de la période prophétique, eh bien, nous devons bien comprendre qu'une des choses qui a changé fondamentalement, on a dit la semaine dernière, Dieu a arrêté de parler. Mais ce n'est pas seulement Dieu qui a arrêté de parler qui a changé. Nous avons changé également. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'origine qui nous est beaucoup plus lointaine, Dieu ne parle plus. Mais en plus de ça, nous, notre identité a fondamentalement évolué. Puisque l'époque de la fin de la prophétie, donc du début de la Kabbalah, coïncide également avec notre passage du statut d'hébreu au statut de juif. Et ça, c'est fondamental de bien le comprendre. À l'origine, nous sommes des Hébreux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être un Hébreu? Lorsqu'on parle de Abraham, on dit qu'Abraham, il est Abraham à Ivri. Et on se rappelle les paroles de Rashi nous expliquant que où Avar est Anahar, c'est-à-dire que tous les autres peuples sont d'un côté du fleuve, il est de l'autre côté, le monothéisme, tout ça, c'est bien. Et c'est vrai. Mais il est d'abord Abraham à Ivri parce qu'il est hébreu. C'est-à-dire qu'Abraham est d'abord et avant tout le fils de Terach, qui lui-même était le fils de Nahor, qui lui-même était le fils de Shelach, qui lui-même était le fils de Arpachshad, qui lui-même était le fils de Ever. Eh oui! J'en ai sauté en passage, hein. J'ai raccourci la liste des généalogies. En fait, il y a Abraham, son papa Terach, ensuite Nahor, ensuite, ensuite on a Serug, ensuite on a Reu, ensuite on a non, on a Shelah, Reu, Peleg, Ever, Arpachshad, et ainsi de suite. Mais Bekitsour, nous sommes les enfants de Ever. Ever nous est présenté dans la Torah comme étant le patron de la famille sémite, puisqu'on va nous dire de Shem, le fils de Noach, qui est Avi Kol Bene Ever, le père de tous les fils de Ever. Donc Ever est le patron de la famille. C'est un hébreu, eh oui, Ever, de là est née la famille hébraïque. OK? Mais pourquoi s'appelle-t-il Ever? Ou Me'ever, Melema. Eh bien, nous dirons nos sages, la particularité de Ever, Navi Aya. Il était prophète. D'où on le sait? Eh bien, parce que il a appelé son fils Peleg, qui Beyamav Niflega à Aaretz. Il a appelé son fils Peleg la séparation, parce que dans l'époque de son fils, il y aura la tour de Babel. Et nos sages de dire comment il peut le savoir? Bah, simplement parce que Dieu lui a dit. Donc, la particularité de Ever et donc des Hébreux est d'être prophète. Au moment où il y a l'arrêt de la prophétie, eh bien, nous passons du stade d'Hébreux au stade de Yéhoudim. L'arrêt de la prophétie, destruction du premier temple, coïncidant avec le tout début du deuxième temple, puisque les derniers prophètes mentionnés dans le Tanakh, Haggai, Zechariah et Malachim, Et dans nos sages, dans la Gemara, ceux qui ont étudié avec moi l'année dernière les petits prophètes, on est arrivé à Malachi, on a expliqué que certains de nos commentateurs nous disent que Malachi, c'est Mordechai. Mordechai de Pourim. Et donc, eh bien, cela veut dire que l'époque de la fin de la prophétie coïncide avec l'histoire de Pourim. Et c'est à ce moment-là que nous nous appelons, pour la première fois, Yehoudim. C'est la première fois que le mot Yehoudi apparaîtra. Ish Yehoudi aya Beshushan Abira. Ushmo Mordechai ben Yehoudi ben Yair ben Jimmy ben Kish Ish Emini. Première fois qu'on parle de Yehoudi. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de passer de Ivri à Yehoudi? Eh bien, cela veut dire que ce que je vivais de manière ressentie, eh bien, aujourd'hui n'est plus que quelque chose qui me reste. J'ai les souvenirs de quelque chose qui était vivant. Ainsi, eh bien, on pourra comprendre les paroles du prophète Hoshéa qui va nous dire « Vedibarti al neviim ve'anochi chazon irbeti ubeyad al neviim adame. » Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque j'ai la névoie ani yechol le'avin, lorsque j'ai pas la névoie ani lo yechol le'avin. C'est pas très compliqué. Lorsque Dieu parle, j'entends. Lorsque Dieu parle pas, j'entends pas. Ok, c'est pas shoot. Et donc, maintenant qu'on en est là, ça veut dire qu'il faut bien comprendre que la première recherche des Mekoubalim, des premiers Mekoubalim, va être de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir expliquer au Ham Israël une dimension qu'il ne peut pas comprendre. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Asechel, le cerveau, c'est notre outil principal pour comprendre la Torah. Toute la Torah t'a niglé, le Talmud, la Halakha, ça se passe là-dedans. Aval la Torah ta Kabbalah, c'est pour traduire ce qui était là, là, à là. Et c'est très compliqué. Lorsque vous avez Yishayahu Annavi, qui vous dit Va'er'e et Adoni Yoshev al-Kise Ram Venissa. Chapitre 20, verset 1. Vous comprenez ce que ça veut dire? J'ai vu Dieu assis sur son trône. Mais je ne comprends pas. Monsieur Isaïe, n'as-tu pas lu dans la Torah qu'il y avait marqué Lo irani Adam Vachai? On ne peut pas me voir? Et Ishayahu, il répond, mais évidemment, j'ai lu, mais qu'est-ce que je te dis? J'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. Ah oui, mais attendez, et moi, comment est-ce que je vais expliquer ça maintenant? Et donc, Torah ta Kabbalah, elle va venir pour nous expliquer, essayer de traduire ce que Ishayahu a vu dans quelque chose que nous, nous ne pouvons que essayer de comprendre. D'accord? C'est ça la recherche de Torah à Kabbalah. Prenez une femme comme Agar. Agar, ce n'est pas forcément la plus grande tzadika qu'on a vue dans le peuple juif. Seulement, elle, ça ne la dérange pas de voir des malachim. Elle sort dans le désert, elle va à un puits, elle ne trouve pas d'eau, nanana. Et tout d'un coup, il y a un malach qui vient et elle discute, papote avec le malach, tout va bien. Nous, aujourd'hui, si quelqu'un me dit dans ce cours, écoute, ce Shabbat, j'ai parlé avec un malach, c'était très sympathique, eh bien, je lui dirai qu'il y a encore de la place dans certaines sections de certains hôpitaux. Ça nous paraît absurde de dire j'ai parlé avec des malachim. Nachon, aval les mekoubalim, ils vont te dire, non mais yesh, ya, ma guide, bat kol. Ah oui, mais moi, j'y comprends rien, ça. Ah, nachon, alors ils vont être obligés de traduire quelque chose qui, à l'époque, était du domaine du courant dans une génération qui n'a pas cette relation. Quand je parle de Yishayahu qui nous parle de Maaseh Merkava, de Yechezkel Hanavi, qui va voir dans tout son premier chapitre le char céleste, eh bien les Mekoubalim vont être obligés de nous expliquer Maaseh Merkava. avec des terminologies pour faire correspondre de façon intellectuelle ce que Yechezkel vivait. D'accord ? Donc c'est vraiment un travail qui est énorme. De ce fait, si on veut étudier Torah ta Kabbalah, alors nous on a dit, nous on va s'occuper de faire un historique évidemment de Torah ta Kabbalah. Donc nous on va partir de manière chronologique. Mais si on devait, décider, allez venez on étudie un livre de Kabbalah, avec quel livre faut-il commencer ? Si on décidait de faire un livre, hein, pas un cours, où la vidéo ne marche pas. On me voit pas ? Si, on me voit. Okay. Si on devait faire un cours, pas comme le Rav Benaroche qui vous, il vous donne la Kabbalah de A à Z, parce que lui, il est dedans. Ah, très bonne question, 2 secondes, j'y viens dans 2 secondes. Très bonne question. Mais si, quand vous avez le Rav Benaroche qui vous fait un cours, lui, comme il est dedans à 100%, alors il peut vous expliquer de A à Z en piochant là et en piochant là. Mais si on devait prendre un bouquin, dit, voilà, je veux commencer à étudier un livre de Kabbalah, eh bien, le Rav Tzvi Yehuda Kouk, Manitou également, et c'est ce que j'ai reçu également du Rav Cherki, que le meilleur livre pour commencer, c'est le livre Sha'arei Ora. Sha'arei Ora du Rav Jeket Elia. Pourquoi ? Eh bien, parce que 70% du livre, c'est des citations de versets. De versets du Tanakh. Parce que si on a dit que la Kabbalah, c'était ce qui nous reste quand on n'a plus le Tanakh, eh bien, forcément, on doit puiser de là-bas pour essayer de comprendre. C'est-à-dire, alors, quelqu'un vient de poser une très bonne question. Quel est le lien dans la Kabbalah entre voir et entendre ? Alors, ce n'est pas une digression, c'est exactement de cela dont on est en train de parler. Lorsqu'il y a névoie, il n'y a pas de différence entre voir et entendre. On a le son et on a l'image. Betorat à Kabbalah, on n'a plus l'image. On n'a plus que le son. Des fois, certaines personnes vont avoir des marot. Mais j'ai dit, qui a écrit Sha'arei Ora, le Rabbi Yosef Jikatilia. Donc, il y en a qui ont, on n'a plus la lumière. On a le son, mais on n'a plus la lumière. Certains vont avoir des marot, mais ça sera sans le son qui va avec. En d'autres termes, aujourd'hui, nous n'avons plus le lien entre la vidéo et le son. C'est très compliqué. Quand on voit une image et qu'on a le son en delay, on ne comprend pas ce qui se passe. Quand on n'a que le son, on ne comprend pas exactement, eh bien, l'intonation peut-être, mais le visage de celui qui enseigne. C'est pour ça que c'est tellement, tellement différent et tellement plus grand d'étudier en face du rabbin plutôt que d'étudier avec des écouteurs. En zoom, c'est mieux qu'avec des écouteurs. Mais le top du top, ça restera toujours d'être face à la personne qui enseigne. Parce que tu peux ressentir avec ce que tu vois qu'il y a ce qu'il dit et il y a ce qu'il veut dire. Vous savez ? Et donc, Torah ta Kabbalah, c'est exactement cela. Ce qui était niglé, ce qui était clair, officiel du temps des prophètes, est maintenant nistar, et donc on a été obligé de le traduire de manière intellectuelle. Voilà le rôle de Torah à Kabbalah. Alors comment ils vont faire ? Comment vont faire les premiers ? C'est-à-dire, comment s'appellent les prophéties dans le Talmud ? Les prophéties dans le Talmud s'appellent Divrei Kabbalah. Divrei Kabbalah. Et donc, ça veut dire que la première des choses, c'est qu'on reçoit cette tradition. La Kabbalah, c'est une tradition. Est-ce qu'il y a une édition suggérée pour Sha'arei Ora ? Non. Non, elles sont toutes bien. Non, je crois qu'il n'y en a que 2 des éditions. Enfin, je n'en connais pas plus que 2. Bekitsour, il y a une transmission d'une tradition. Alors très bien, puisqu'on a dit cela, eh bien, allons-y. Comment faire ? La première des choses à faire, c'est Lechon HaKodesh. Eh oui, désolé de vous le dire, mais si on veut étudier Torah Takabala, ça doit se faire Belashon HaKodesh. Mais qu'est-ce que c'est le Lashon HaKodesh ? Est-ce que c'est l'hébreu ? Que les choses soient claires, la traduction du mot Lashon HaKodesh, enfin des mots Lashon HaKodesh, ne veut pas dire la langue sainte. Puisque la langue sainte, on devrait dire Alashon HaKedosha. Lashon HaKodesh, ça veut dire la langue du saint. Alashon Shel HaKodesh. Shemegale et HaKodesh. Cette langue qui dévoile le saint, ça peut être en français. Ça peut être en anglais. Mais HaKadosh Baruch Hu a décidé de s'adresser à nous en hébreu. Pas en hébreu moderne, mais en hébreu tel qu'il l'a transmise au peuple juif. Et donc, si tu veux comprendre eh bien, cette transmission, tu te dois de parler l'hébreu. Et pas seulement l'hébreu de l'Ulpan, mais l'hébreu du Tanakh. Tu dois comprendre ce que veut dire l'hébreu dans son origine. Et ça, c'est fondamental. Torah Takabala doit se faire en hébreu. Alors, je vais te dire, mais attends, deux secondes. Alors, comment ça se fait que le Zohar, il est en araméen ? Ah. Si toute la Torah Takabala, ça doit être en hébreu, alors comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on a des textes de Kabbalah, c'est en araméen ? Nachon, parce que l'araméen va chercher quelque chose d'encore plus premier que l'hébreu. L'araméen, c'est quelque part la langue maternelle du peuple juif. Puisque Avraham Avinu parle araméen, il est à Aram Naharaim. Quelque part, l'araméen, c'est la tatmouda de l'hébreu. C'est l'inconscient de l'hébreu. Ainsi, en araméen, je me permets de dire des choses qu'en hébreu, je ne me permettrais même pas de dire. Parce que je n'ai plus de limite en araméen. Par exemple, quand vous parlez de Kutcha Berichu, en hébreu, on aimerait traduire à Kadosh Baruchu, mais c'est faux. Hakadosh, ça se dit Kadisha et non pas Kutcha. Kutcha, ça veut dire Kodesh. Et donc, ça voudrait dire que Kodesh Baruch Hu, et pourtant le Kodesh, ce n'est pas l'essence. Kodesh, c'est quelque chose de beaucoup plus premier. Comment est-ce que je peux dire que Kodesh Baruch Hu, ça me dépasse complètement ? Nachon, en hébreu, on dit Kadosh. Mashé Rachok, Mashé Karov. La Kodesh, Aofa'a, les amis, vous comprenez que donc nous sommes dans une génération, et je parle depuis le début de Torah Takabala, où nous devons nous astreindre à essayer de transmettre les vestiges d'une tradition. C'est ça le problème, le grand combat de Torah Takabala. Et le problème, il est le suivant, c'est que chaque époque parle un autre langage. Et comme chaque époque parle un autre langage, eh bien, si tu veux pouvoir transmettre cette tradition, ça devra être en fonction de ce que l'époque peut comprendre. Sinon, eh bien, tu ne comprendras rien. Et c'est pour ça que, dès le début, de la fin de l'année voie, donc on est à l'époque du Second Temple, eh bien vont apparaître ce qu'on appelle les Midrashim. Car quand on parle de Torah Takabala, ça commence où ? Ça commence avec les Midrashim. Les Midrashim, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que le Midrash ? Alors, j'ai l'habitude de dire que le Midrash n'est que la moitié d'un drash. Car comme son nom l'indique, c'est un Midrash. Mais en vérité, Le Midrash, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la moitié d'un drash. Le Midrash, c'est la traduction de choses qu'on n'avait pas besoin d'expliquer à l'époque, parce qu'on les comprenait des versets. C'était la compréhension évidente quand on lisait la Torah. Mais aujourd'hui, ce n'est plus évident. Donc, on a besoin du Midrash. Le Midrash ne vient donc pas nous enseigner ce qui a marqué, mais il vient nous enseigner ce que tu dois comprendre dans ce qui a marqué. Ainsi donc, les premiers chachamim, qui sont les chachamim de la post-prophétie, vont mettre en place la dimension du pardès. Mazé pardès, pshat, remez, drash, et sod. Lorsqu'on dit que les anges parlent araméen, ça voudrait dire qu'une partie cachée. Qu'une partie cachée de la Torah s'exprime parfois en symbole ou parabole, comme dans le Midrash. Tout à fait. Bien sûr. C'est pour ça qu'il y a les Midrashim. Donc, on va nous parler du Pardès, Rabotai. Mazéa Pardès. Pshat, Remez, Drash, Sod. Deux secondes. C'est bien beau de me faire des anagrammes. Mais le mot Pardès, d'où vient-il? Vous savez d'où vient le mot Pardès, les amis? Pardès, ce n'est pas juif. Hein. Le mot Pardès, ça vient... Non, ça ne veut pas dire jardin. Ça, c'est de l'hébreu moderne. En hébreu moderne, on dit qu'un Pardès rimonime, c'est un champ avec un jardin avec des grenadiers. Mais non, Pardès, ça vient du Perse. Ça vient du Perse, Paradisa, ou alors en anglais, Paradise, ou alors en français, paradis. C'est-à-dire le mot Pardès, nous on l'a utilisé parce qu'on a dit, ah, c'est bien, ça fait les anagrammes de Pshat, Remez, Drash, Vesod. Avant la notion de Pardès, elle ne vient pas de chez nous. Elle vient de justement l'extérieur. Parce que très souvent, quand tu es à l'intérieur de quelque chose, tu as du mal à en percevoir les contours. Et on est tellement à l'intérieur de la transmission qu'on a du mal à en saisir les contours. Et donc, on va prendre ces concepts qui viennent de l'extérieur et on va le faire rentrer chez nous. On dit OK, paradis. Paradis, très bien. Alors, paradis, sache que c'est quoi? Zepchat, Remez, Drash, Vesso. D'accord? Alors, très bien. Le Midrash va donc avoir une valeur fondamentale. De nous faire comprendre, de nous dévoiler à une époque où en lisant le verset, on n'y comprend plus, qu'est-ce que le verset voulait dire? OK? Mais attention, si tu veux comprendre le Midrash, tu ne peux pas le détacher de son pshat. La reine va nous dire le Talmud, Ein mikra yotse mide peshuto. Et c'est là qu'il va falloir qu'on comprenne quelque chose de fondamental. Il y a le sens littéral du verset. Et il y a ce que la Torah veut que tu comprennes. Le pshat dans le verset, ce n'est pas le sens littéral. Le pshat dans le verset, c'est ce que la Torah veut que tu comprennes. Le sens littéral, c'est ce que Rashi appelle « mashma'o ». Des fois, « pshuto » qu'est « mashma'o ». Mais ce n'est pas toujours le cas. Prenez un exemple, l'exemple le plus connu. « Aïn tachat aïn ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Œil pour œil. Mashmao, ça veut dire que si je t'ai enlevé l'œil, il faut que je t'enlève l'œil. Aval pshuto, c'est que je dois rembourser la valeur de l'œil. D'accord? Donc on a le pshat, c'est ce que la Torah veut que je comprenne au niveau de la halakha. Le remez, c'est ce que la Torah veut que je comprenne en le comparant à d'autres époques et à d'autres versets. Le drash, c'est ce que la Torah veut que je comprenne lorsqu'il y a la prophétie. Et le sod, c'est ce qui permet de réunir tout ensemble. Car il est fondamental de comprendre, avant de pouvoir rentrer maintenant dans la chronologie, il est fondamental de bien comprendre ce que veut dire le mot sod. Donc le pshat, c'est la Torah orale. Bah, évidemment, le drash aussi, le remez aussi, le sod aussi. Tout ça, c'est la Torah orale. D'accord ? Que veut dire le mot sod ? Ah, ça c'est important. Non, ça ne veut pas dire secret. Ça ne veut pas dire secret. Le mot sod veut dire la colle. La colle, coller. Eh oui, c'est marqué dans la Torah. Lorsque Yaakov donne les brachot à ses enfants et qu'il arrive autour de Shimon et Lévi, il leur dit « Shimon ve Lévi achim, klech hamas mecherotem » Ils sont très forts, ils ont tout le temps ils sont capables de faire la guerre. « Besodam al tavo nafshi ou bikehalam al techat kevodi » Mazé besodam Basod Shelaem, lorsqu'ils sont ensemble, Al Tavonafshi, on ne peut rien contre eux. Sod Leistoded, ça veut dire se coller l'un l'autre. Hasod, son rôle est de réunir toutes les parties pour ne faire qu'une seule véritable compréhension. Et c'est pourquoi Manitou, il disait qu'il ne fallait pas étudier Pardes, mais qu'il fallait étudier Sfarad. C'est-à-dire sod, pshat, remez, vedrash. Comprendre qu'il y a d'abord cette dimension d'unité et ensuite tu peux comprendre les différentes parties. Eh oui. Et en fait, vous comprenez bien que c'est ça le projet du Rav Ben Arosh en faisant la Yeshiva online cette année et en étudiant la Kabbalah. Combien sont les gens qui pourraient dire « Quoi ?» Qu'est-ce qu'enseigne la Kabbalah à des gens ? C'est pas le moment, ils n'ont pas tous 40 ans, et puis il faut d'abord étudier toute la Torah avant de commencer à rentrer dans les choses plus profondes. Alors pourquoi le Rav Ben Arosh, il a dit non, c'est le moment ? Parce qu'il faut absolument avoir une Torah qui soit capable de faire l'unité. Le Rav Ben Arosh, il ne te dit pas de ne pas étudier la Halakha, de ne pas étudier le Talmud. Bien sûr qu'il t'a dit d'étudier. D'ailleurs, dans ses cours, il y a énormément de citations de plein de choses. Mais c'est une vision d'abord de cohésion générale qui te permet de mieux comprendre où se range chaque chose. D'accord ? Top. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, Rabotai, allons-y pour la chronologie. Eh oui, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas comprendre la transmission, eh bien, s'il n'y a pas le langage qui va avec l'ambiance du moment. Et donc, il va y avoir dans l'enseignement de Torah Takabala 5 grandes périodes. La vérité, c'est qu'on est rentré dans la 6e. On est rentré à la 6e, j'y reviendrai à la fin. Nous avons donc 5 grandes périodes d'enseignement de Torah Takabala qui vont s'étendre sur 2000 ans. Alors les périodes ne sont pas équivalentes au niveau du timing. C'est-à-dire, quelles sont ces 5 grandes périodes ? Eh bien, la première époque de Torah Takabala, c'est au moment de l'arrêt de la prophétie. C'est au moment de l'arrêt de la prophétie. Et donc, à ce moment-là, comment le monde fait face. Comment le monde fait face à cet arrêt? Car on l'a dit la semaine dernière, lorsque Dieu parle, le monde entier entend, alors il ne comprend pas forcément, mais le monde entier est conscient de la présence du divin, et lorsque Dieu arrête de parler, eh bien, le monde entier ressent cet arrêt-là. Et donc, comment le monde entier va traduire cet arrêt de la prophétie? Eh bien, dans le monde, la période du Second Temple est la période du mysticisme. Que ce soit dans la fin de l'Empire grec, et surtout, oui, je vais donner les dates, et surtout de l'Empire romain, donc on va partir sur des années à peu près, on avait dit la semaine dernière que le Midrash nous raconte que le jour où Haggai, Zecharia et Malachi sont morts, c'est le jour où Alexandre le Grand est rentré à Jérusalem. Donc, on avait dit, ça ne correspond pas, mais on parle de plus ou moins des années moins 300. D'accord ? Donc, à partir de ce moment-là, et quelque part jusqu'aux années de la fin de l'Empire romain d'Occident, à savoir jusqu'au 4e, 5e siècle, en fait, jusqu'au Khatima du Talmud à Yerushalmi, eh bien, nous avons, c'est-à-dire aux années 350 à peu près, nous avons donc près de 600 ans, 650 ans d'une transmission de Torah qui doit faire face au mysticisme. Je ne parle pas de la Torah du Niglé, je ne parle pas de la Halakha. La Halakha, elle continue à faire son petit bonhomme de chemin depuis Moshe Rabbeinu. Je parle de comment faire face, comment traduire maintenant, eh bien, cette Torah-là. Celui qui va être le plus grand, on va dire représentant de ce Beit HaMidrash, qui va arriver au paroxysme de tout cela, c'est dans les années 170-180, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Avec le Sefer HaZohar, il n'est pas le seul. Donc là, je vous donne un nom, mais vous comprenez que nous, on va chaque semaine s'occuper d'autres personnages. Dans cette ambiance-là, eh bien, on va devoir également parler de Rabbi Akiva, on va parler de Rabbi Meir. Ce sont le même Beit HaMidrash avec des enseignements différents. C'est-à-dire, donc, c'est des personnages qu'on va devoir évoquer, car après, nos cours vont se concentrer à chaque fois sur un ou un groupe de personnages. D'accord ? Donc ça, c'est la première époque qui fait face au mysticisme. Sefer HaZohar. Sefer HaZohar, c'est, si tu ne comprends pas le contexte, tu as l'impression que ce sont des histoires, aucun rapport, machin. Nous dit Rabbi Nachman de Breslav, dans les Sipurim HaAsiyot, que justement, je vais expliquer maintenant, ce que c'est le mysticisme. Nous dit Rabbi Nachman de Breslav dans le Sipurim HaAsiyot que l'Ifne HaZohar, eh bien, la transmission de la Kabbalah était transmise comme ce que moi je vais vous raconter dans les Sipurim HaAsiyot. C'est-à-dire des histoires. Des histoires, et c'est ce qu'on va retrouver dans les Midrashim. Des histoires, et à l'époque, ça paraît évident de comprendre ce que ça veut dire. Le Zohar va être obligé de me mystifier tout ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque je vais parler, prenons un exemple, lorsque je vais parler je vais raconter une histoire mettant en scène la grandeur d'un personnage, la puissance d'un personnage, et bien maintenant, je vais représenter cela par des sphirotes. C'est-à-dire quelque chose qui était du domaine du vécu d'une histoire devient maintenant un concept métaphysique. D'accord ? Et ça va être comme ça que la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai va se mettre en place. C'est ça qu'on va appeler la mystique. C'est-à-dire quelque chose qui va dépasser le physique, métaphysique. Ça, c'est la première grande époque. Après, la seconde grande époque est une époque beaucoup plus grande, qui est, en vérité, peut se diviser en deux périodes. En vérité, bon, vous savez quoi, on va faire les choses bien. Entre les années 350 et les années à peu près 900, il y a une période où on ne va pas tellement s'occuper de Torah ta Kabbalah. Ça veut dire que c'est la période où la principale écriture du peuple juif, c'est le Talmud. Le Talmud et après les Savoraïm et les Géonim. Le Zohar apparaît donc pour contrer le mysticisme, mais utilise le mysticisme. Je ne suis pas sûr. Exactement. Le Zohar utilise ce qui a été mal utilisé par d'autres pour montrer comment il faut bien l'utiliser. OK ? La période du Talmud. La période du Talmud va être une tentative de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Puisque le Talmud se divise en deux parties. Il y a la halakha et la Haggadah. Et la Haggadah, toutes les Haggadot du Talmud, c'est la Torah ta Kabbalah du Talmud. Donc tous les Chachamim du Talmud que vous connaissez étaient des Mekoubalim. Seulement chez eux, ça ne faisait qu'un. Le Talmud de Babylone a pris l'habitude de séparer la Halakha et la Haggadah, alors que le Talmud de Jérusalem les réunit. Donc la deuxième époque, c'est Halakha face à Haggadah. La Haggadah, c'est quoi? C'est lorsqu'on revient à un mode d'histoire. Est-ce que ça fait face à quelque chose? Non. Pourquoi ça ne fait pas face à quoi que ce soit? Eh bien parce que ce sont les époques où dans le monde entier, chez les Goïm, il y a un trou noir de la pensée. C'est une période où il n'y a pas de réflexion. Alors, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de réflexion. Il y a forcément des gens qui ont réfléchi. Mais, de manière générale, on va appeler ça les âges sombres, le Moyen-Âge dans sa première version, entre les années 400 et les années 900, il n'y a pas vraiment de grande réalisation chez les goyim au niveau de la réflexion. Donc, on n'a pas besoin de faire face. Et donc, c'est une période, la période du Talmud, des Savoraïm et des Géonim, où on est à l'intérieur du peuple juif et on va pouvoir tout simplement réenseigner, comme on l'a toujours fait, Halakha et Haggadah. Donc, c'est une période qui est bénie, mais d'un autre côté, qui est uniquement centrée sur nous-mêmes. Et dans cette période, eh bien, on devra mettre en avant certaines des grandes figures de cette Torah-là, Ravuna, Rabbi Zeira, et chez les Géonim, on va pouvoir parler de Rabbeinu Amram Gaon, et ainsi de suite. Et ensuite, nous arrivons à la troisième grande période, entre les années 900 et les années 1500, 1600. Nous allons avoir la Torah de la grandeur. Dans le monde, c'est l'âge où le monde se réveille non seulement à la réflexion, mais à réfléchir en grand. Ça va commencer dans le monde arabe pour arriver à la Renaissance italienne et à la Renaissance européenne. Dans le monde arabe, la volonté de déterminer le zéro en mathématiques, c'est la volonté de pouvoir atteindre l'infini. Ça paraît contradictoire quand on parle de maths, de dire que grâce au zéro, j'arrive à l'infini, mais c'est grâce au zéro au niveau mathématique qu'on va pouvoir appréhender le moins infini et le plus infini. En d'autres termes, ça va commencer là-bas où on va avoir une réflexion qui nous ouvre la grandeur. La Renaissance va évidemment aller dans ce sens-là. Dans cette ambiance-là, eh bien, nous avons des Mekoubalim qui vont commencer à parler de Torah ta Kabbalah qui va nous attacher à l'infini. Parmi ces Mekoubalim, eh bien, il va y avoir plusieurs époques et plusieurs écoles de pensée. Il va y avoir l'école de pensée de l'Espagne, Et parmi eux, on va avoir Rabbi Shlomo Ibn Gabirol, on va avoir Rabbi Shmuel Hanagid, et le plus grand représentant de ce Beit HaMidrash, Rabbi Moshe Ben Nachman, le Ramban. Mais attention, il n'y a pas que en Espagne, en France également. En France, en Allemagne, nous allons avoir ce qu'on appelle Chassidé Ashkenaz. Alors, rien à voir avec la chassidoute encore du Baal Shem Tov, Chassidé Ashkenaz, porté par Rabbi Yehuda Hassid, qui veulent revenir à ce qu'on appelle Sifruta Echalot. On y viendra évidemment, ne vous inquiétez pas, quand on y arrivera concrètement, on parlera en profondeur de ce qu'il s'agit. Mais c'est une écriture qui veut sortir justement du Zohar les parties qui nous rattachent à l'infini. Donc ça, c'est Chassidé Ashkenaz, par exemple. Nous allons avoir le paroxysme de ce Beit HaMidrash avec, eh bien, le Rav Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, le Harizal à Tzfat. On pourrait presque les mettre de côté, les Mekoubalim de Tzfat. C'est un Beit HaMidrash qui réunit tout le reste. Et là, on parle du 16e siècle. D'accord? Seulement, voilà. Voilà que dans cette réalité de la Renaissance, eh bien, parler de l'infini font en sorte que les gens s'y perdent un petit peu. Comme les gens s'y perdent un peu, il va falloir redescendre un petit peu sur Terre. Et donc, on va avoir dans le monde du XVIIIe siècle la volonté de réfléchir non plus l'univers, mais de réfléchir l'individu. Seulement, on ne peut pas passer de l'univers à l'individu. Et donc, il y a un homme, toute sa Torah, c'est de prendre l'infini et de la traduire au niveau, petit à petit, de l'individu. On va avoir un livre de lui qui parle uniquement de l'individu, et des livres qui parlent uniquement de l'infini, et entre les deux, mon cœur balance. Cet homme, c'est le Ramchal, évidemment. Et finalement, le Ramchal nous permet de faire la connexion. Alors le Ramchal, on a également le Maharal de Prague un petit peu avant. Encore une fois, je ne développe pas maintenant tous les noms. Il y aura un cours entier sur le Maharal, un cours entier sur le Ramchal. Et finalement, nous arrivons à donc cette autre grande période, Torah Tachassidut. Torah Tachassidut, c'est la traduction de la Kabbalah globale au niveau de l'âme de l'individu. Baal Shem Tov. Je ne mets volontairement pas Rabbi Nachman de Breslav dedans. Quand on fera le cours sur Rabbi Nachman, vous comprendrez pourquoi. Mais tous les élèves du Baal Shem Tov, le Maguid de Mezerich, le Admor Hazaken, fondateur de Chabad, le Kdushat Levi, toute cette, ce choug, tout cet idéal de pensée de Torat Achassidut. Le Maharal et le Ramchal se situent dans quelle période? Eh bien, le Maharal de Prague se situe il y a à peu près 400 ans. Le Ramchal, il y a à peu près 350. Face à cette évolution, alors l'homme ne pense plus univers, pense individu, mais à un moment donné, il se rend compte que penser uniquement individu, hello, ça ne suffit pas, car je suis un animal politique. Et donc, petit à petit, au 19e siècle, on va commencer à penser nation. Et donc, la Torah de la Kabbalah doit recommencer également à parler nation. Et c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu va nous envoyer le Rav Kook. Et toute la Torah du Rav Kook va être de traduire cette Torah de Kabbalah au niveau de la nation d'Israël, du nationalisme, et comment est-ce que de la nation tu peux arriver à l'univers. sans oublier l'individu. OK? En filigrane de toutes ces périodes, il y a plusieurs groupes de personnes qui ne semblent pas vraiment avoir été impactés par cela, parce qu'ils vivaient vraiment en autarcie, ils vivaient vraiment coupés du reste, parce qu'ils n'ont complètement pas été en contact avec le monde occidental, mais même dans le monde arabe dans lequel ils vivaient, les Arabes les ont parqués de côté. C'est la Torah des Thémanim. Chachmé Théman, c'est une Torah qui n'a pas vraiment l'air d'avoir été impactée par le temps. Parce qu'ils ont vécu pendant 2000 ans entre eux. Et donc, ma Mekoubalim, chez le Chachmé Théman, eux, ils ne rentrent pas dans tout ce cheminement qu'on a fait. Ils sont à chaque fois partout. C'est la particularité de Chachmé Théman, et on en parlera évidemment aussi. Et tout ceci nous amène eh bien, au XXe siècle. Est-ce qu'on peut dire, qu'il faut aujourd'hui une autre personnalité pour traduire la Kabbalah? Attends, je n'ai pas la fin. Hein, en langue universelle cette fois. Iné. Nous sommes, donc ça nous amène au XXe siècle, et à partir de la fin de la deuxième moitié du XXe siècle, et on est dedans aujourd'hui évidemment, eh bien, le nationalisme ne suffit plus. Eh oui. Pourquoi ? Oui, ça y est, je finis ma phrase et en plus, ensuite, vous pouvez allumer vos micros. Le nationalisme ne suffit plus. Il y a ce qu'on appelle Akfara Globali, ou alors en français, la mondialisation. L'homme n'est plus seulement une nation face à une autre, mais maintenant, de facto, on est en Zoom. Donc, il y a cette proximité, ce raccourcissement du temps et des distances qui fait que je suis obligé de penser mon individu au sein du monde entier. En d'autres termes, le 21e siècle va être le siècle de l'unité, où c'est une Torah qui doit parler en même temps à l'homme en tant que nation, à l'homme en tant qu'habitant de la planète Terre, en l'homme en tant qu'habitant du cosmos, tout ça en même temps. Qui va être celui qui va relever le défi? Alors d'abord, je ne vais pas pouvoir faire un cours sur les rabbins d'aujourd'hui, ce serait trop compliqué. Et surtout sur les rabbins du futur, on ne pourra pas le dire non plus. Mais il est évident, d'abord, que le Rav Kook qui s'inscrivait là-dedans aussi, il y a plusieurs textes et on en parlera, mais les Mekoubalim, comme par exemple le Rav Ashlag, comme par exemple le Rav Meir Yehuda Getz, comme par exemple le Rav Sharabi, comme par exemple, ce sont des Mekoubalim qui ont lié tout. Comme le Rav Benarosh, qui relie tout, parce que c'est l'époque. Nous sommes obligés aujourd'hui d'arriver à cette unité. Donc voilà le programme de notre étude de l'année. Vous avez vu que c'est tout un programme et j'ai envie de vous prévenir tout de suite. J'ai cité plein de noms dans ma petite frise. Certains sont plus connus et certains sont moins. Le problème, c'est qu'on m'a demandé de faire un historique de la Kabbalah. Donc, j'ai envie d'être le plus fidèle possible. Alors, évidemment, je ne vais pas pouvoir faire chaque année, mais j'ai envie d'être fidèle et donc de commencer au départ. Pourquoi je vous préviens cela? Parce que, il y a, évidemment, quand j'ai dit les noms, Ramchal, Rabbi Nachman de Breslav, l'Admor HaZaken, Baal Shem Tov, je te dis, j'ai envie d'entendre ce cours-là, parce que ce sont des noms qui sont connus. Mais quand je vais te parler, alors, de Bichlal, de Rabbi Shimon, Rabbi Meir, Rabbi Akiva, tu te dis, ça va, c'est dans le Talmud, on connaît les histoires. Ben non. Et quand on va parler d'autres rabbanim qui sont moins des stars, eh ben, faudra pas venir en disant quand est-ce qu'on parle des stars? Eh ben, on viendra les athlètes. On n'est pas pressé.
Rav, je peux poser une question?
Oui, bien sûr. C'est le moment des questions. C'est parti.
Je vois qu'il y a beaucoup de machlokot. Vous parlez du Rav Kook, vous parlez d'autres rabbins. De un, il a été très très dénigré par les Hougim Haredim, Hasidim, il n'a jamais été accepté. Et de deux, il y a aussi beaucoup de rabbanim aujourd'hui, ils n'ont pas le Ruach HaKodesh qu'ils avaient, les gens du Midrash ou les gens qui ont essayé d'expliquer la Kabbalah il y a 1000 ans. Donc c'est une autre notion, c'est un autre standing, si vous voulez.
De quoi on parle?
J'ai pas entendu vraiment de question, mais je vais essayer de...
Vous parlez de grands noms, mais ils ne sont pas acceptés par tout le peuple juif.
Ah, et donc, d'accord, j'ai compris. Alors, je vais répondre à vos... Si vous voulez bien, d'abord à la deuxième chose que vous avez dit, ensuite à la première. Par rapport au fait qu'on n'a pas le même niveau que les rabbins d'avant. D'abord, c'est tout à fait vrai. C'est très vrai que plus on est proche de la prophétie, et plus on a un niveau qui est grand, et plus on s'en éloigne, et moins notre contact avec l'infini est prononcé, et donc moins notre niveau est grand. Seulement, cette phrase est vraie dans les deux sens, c'est-à-dire plus on est proche de la prophétie, c'est-à-dire de l'époque où la prophétie s'est arrêtée, et plus on est proche du moment où la prophétie va revenir. Donc il y a un loop comme ça, si vous voulez, où aujourd'hui, il y a, comme disait Manitou, non plus une Yerida Tadorot, mais une Aliya Tadorot. Ceci étant dit, vous avez tout à fait raison que les niveaux ne sont pas les mêmes, mais ce n'est pas important, ce n'est pas un problème. On fait avec ce qu'on a. Akadosh Baruch Hu nous a donné les Neshamot qu'on avait besoin à ce moment-là. Quitte à ce qu'elles soient moins grandes que celles d'avant, ce n'est pas le problème. Si on ne pouvait pas comprendre la Neshama de Rabbi Meir, alors il nous envoyait quelqu'un d'autre qui était plus adapté à notre compréhension. D'autre part, Yaakov nous dit, nous sommes des daims sur des épaules de géants. La grande différence qu'il y a entre, je ne sais pas moi par exemple, le Harizal et Rabbi Akiva, il est très possible que le Harizal individuellement est moins grand que Rabbi Akiva. Seulement, le Harizal a quelque chose que Rabbi Akiva n'a pas. Le Harizal a lu le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, alors que Rabbi Akiva ne l'avait pas lu, parce qu'il n'existait pas encore. Le Harizal a lu tous les commentaires du Ramban que Rabbi Akiva n'avait pas encore lu. Ce qui veut dire que même si au niveau individuel, on est moins grand, eh bien, on est plus grand parce qu'on s'inscrit dans une transmission de 2000 ans et donc on a appris de ceux qui étaient plus grands. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose par rapport au Rav Kook, c'est fantastique de voir à quel point la mémoire du peuple juif est sélective. Car quand vous me dites qu'il y a des gens qui n'ont pas été, qui n'ont pas accepté le Rav Kook, c'est intéressant parce que vous ne m'avez pas parlé du Ramchal, vous ne m'avez pas parlé du Maharal, vous ne m'avez pas parlé de la Chassidoute. C'est-à-dire que tous ces noms-là, que ce soit le Ramchal, le Maharal, que ce soit le Baal Shem Tov, que ce soit le Magid de Meserich, que ce soit le Admor HaZaken, ils ont tous été décriés de leur vivant. Je me rappelle quand même que le Ramchal, les gens voulaient lui mettre un cherem sur la tête. Je vous rappelle quand même que le Gaon de Vilna a mis un cherem sur la tête du Admor HaZaken. Donc, ce n'est pas nouveau qu'il y a des machlokot et que les gens n'acceptent pas forcément les autres. Ce n'est pas pour ça que leur grandeur est moindre. Pour revenir au Rav Kook, il y a une différence fondamentale entre le monde charedi actuel qui n'accepte pas le Rav Kook de la même façon que vous n'acceptez pas blablabla. Oui, j'ai dit blablabla. Parce que blablabla, vous ne savez pas ce que c'est, moi non plus d'ailleurs. Donc c'est absolument sans aucun intérêt de dire que je n'accepte pas quelque chose que je ne connais pas. Le monde charedi aujourd'hui n'a absolument aucune idée de ce que c'est que la Torah du Rav Kook, ne l'a jamais étudiée. Et donc, ça ne veut rien dire qu'il ne l'accepte pas. Par contre, à l'époque du Rav Kook, et je vous invite à lire toutes les correspondances qu'il y avait entre les rabbanim qui vont devenir le monde charedi, mais à l'époque du Rav Kook, tout le monde est unanime sur la grandeur du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un rabbin dans le monde qui ne reconnaît pas sa grandeur comme étant un des plus grands, voire le plus grand. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec lui sur tout. parce qu'on peut reconnaître la grandeur d'un bonhomme sans forcément partager toutes ses idées. Mais au niveau de « il n'a pas été accepté », c'est totalement faux. Prenez l'exemple de 1913. En 1913, eh bien, le Rav Kook est l'invité d'honneur du congrès de la Agudat Israël, présidé par le Chafetz Chaim, présidé par tous les rabbins d'Europe qui vont devenir le monde Haredi. Ils vont décider d'inviter comme invité d'honneur le Rav Kook. Et vous savez comment ça marche lorsque il y a un rabbin qui se lève pour prendre la parole. Alors tout le monde se lève pour Kavod et ensuite se rassoit. Seulement à ce moment-là, le Rav Kook se lève pour prendre la parole au congrès de la Agudat Israël. Le Chafetz Chaim se lève, c'est lui le président de la Agudat Israël. Chafetz Chaim, il se lève et il ne se rassoit pas. Et les gens lui demandent pourquoi tu ne te rassois pas. Il répond, et c'est, vous pouvez le lire dans le livre Toldot Chafetz Chaim de son fils, il dit, la Torah est debout. Comment vous voulez que moi je m'assoie ? Donc, le Rav Kook, à son époque, était largement considéré parmi les plus grands, voire le plus grand. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le monde était d'accord. Prenez, dernier exemple, le Chazon Ish. Il n'y a pas plus monde Haredi que le Chazon Ish. Eh bien, lorsque le Rav Ishayahu Karelitz arrive en Eretz Israël, il n'y a que deux personnes que dans ses correspondances, il appelle Maran. Et l'une de ces deux personnes, c'est le Rav Zonenfeld, et l'autre, c'est le Rav Kook. Donc, tout ça pour vous dire qu'il n'y a fait aucun débat sur la grandeur du Rav Kook. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne l'acceptent pas, mais sans savoir de quoi on parle. Donc, ça ne nous intéresse pas.
Oui, je peux poser une question aussi.
Bien sûr.
Sur le sujet. Alors, d'abord, je voulais vous remercier parce que moi, ça fait 3 ans que je me débat avec la Kabbalah. Donc, je voulais vous demander ce que vous pensez de Gershom Scholem, la Kabbalah et Moshe Hidel. Parce que j'ai lu les 3 livres, mais attendez, je n'ai pas fini. Je n'arrive pas à passer au texte. C'est-à-dire, par exemple, de Abraham Aboulafia, de Palmier de Déborah, d'Expérience mystique d'Aboulafia. Je reste toujours aux généralités. Pourquoi ? Mais là, j'ai compris pourquoi. Parce que je n'ai pas assez de connaissances ni en Torah, ni en Guémara, ni enfin, tout
c'est
ça.
C'est possible, effectivement, que quand il y a des grandes lacunes au niveau des bases de la connaissance, alors voilà, après, quand on va rentrer tout de suite dans des dimensions plus profondes, s'il nous manque les bases, c'est compliqué. Mais par rapport à Gershom Scholem, ce n'est pas un Mekoubal, c'est un scientifique, c'est-à-dire c'est un chercheur de Kabbalah. Donc, c'est très important de faire des recherches académiques. Et d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Il peut être Yireh Shamayim aussi. Mais ce n'est pas un Mekoubal. Par contre, quand on parle de Rabbi et Avraham Aboulafia, quand on parle de Tomer Devora, alors vous rentrez déjà dans des sujets qui sont fondamentalement profonds, très compliqués de percevoir cette profondeur en français déjà, parce que les traductions sont extrêmement compliquées. Et encore une fois, il faut les replacer dans leur contexte. Donc, lorsqu'on veut étudier Tomer Dvora, on ne commence pas forcément par le Ramak. Il faut faire les choses dans l'ordre. C'est pour ça que vous avez le Rav Benaroche qui va vous remettre de l'ordre dans tout ça.
Bien, merci beaucoup.
Il reste 2 minutes, une petite dernière question. Une dernière question,
oui.
Si quelqu'un a une question.
Oui, oui. C'est possible.
Oui, Gabriel. Ah. Oui, Gabriel.
Alors, c'est une question qui me tracasse un petit peu tout le temps. Quand on parle de Kabbalah, on parle donc de réception. Pourtant, on a 5 époques où on voit, on va dire, des chidushim. C'est-à-dire que la chassidoute, par exemple, apporte quelque chose de nouveau. Elle se concentre sur le yachid, sur le nefesh adam. Et de manière générale, est-ce que les chachamim, ces porteurs-là de nouveaux messages, est-ce qu'ils apportent d'eux-mêmes ? Est-ce que c'est des idées ? Est-ce que c'est, on va dire, entre guillemets, je vulgarise un petit peu une sorte de nouvelle philosophie, une nouvelle vision, ou c'est quelque chose qu'ils ont reçu de manière parfaite et que ça existait déjà avant eux ?
Alors, d'abord, ça existait évidemment déjà avant. Le Baal Shem Tov n'invente rien. C'est un renouveau. C'est-à-dire que toute la Torah du Baal Shem Tov, elle est déjà chez Moshe Rabbeinu. Seulement, lui, il va te mettre en surbrillance la notion de l'individu et du nefesh qu'il y avait déjà dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Maintenant, ils ont chacun des rabbanim, tous ces rabbins-là. Comment ça se fait que ce que eux sortent de leur bouche ne ressemble pas à ce que leurs rabbins sortent de leur bouche ? Ouais. Et bien, simplement parce que le rabbin, la Torah ne lui appartient pas. Il est un conduit, un tsinor qui transmet la parole de Dieu depuis Moshe jusqu'à aujourd'hui. Et donc, lorsqu'il transmet, il met son identité dedans sans forcément le savoir. Et je terminerai par cette mini-histoire. Rabban Yochanan ben Zakkai était le maître de Rabbi Eliezer ben Hourkanus. Et un jour, tel qu'on voit dans Pirkei de Rabbi Eliezer, il y avait un grand repas, on va passer les détails, et Rabban Yochanan ben Zakkai a dit à Rabbi Eliezer, « Drosh, vas-y, fais un Dvar Torah. » Il lui a dit, « Rabbi, tout ce que je sais, ça vient de toi. Et toi, tu es là, donc ce n'est pas la peine que moi je parle. Parle-toi. » Il a dit, « Ubechol zot. » Ubechol zot. Et donc, c'est quand même Rabbi Eliezer qui a parlé. Il a fait un Dvar Torah, et le Pirkei de Rabbi Eliezer nous dit que ce qu'il a dit, « Lo shema'an ozen me'olam. » Aucune oreille n'avait jamais entendu cela, y compris celle de Rabban Yochanan ben Zakkai, le maître lui-même. Parce que bien que ce soit toute la Torah de Rabban Yochanan ben Zakkai qui transite par Rabbi Eliezer, la façon dont Rabbi Eliezer le dit, eh bien, c'est quelque chose que le précédent ne connaissait pas. Et c'est ce que le Rav Kook dira lorsqu'il verra la première version du livre Orot HaKodesh qu'avait mis en place le Rav HaNazir. Il lui dit, ah ben non, je comprends ce que j'ai écrit.